je demande donc maintenant au GAC d'aborder le point numéro 7 de l'ordre du jour concernant le HUIS. Nous avons Peter Nedelfold de l'Australie. Mais pour vous donner un peu de contexte, lors de la réunion à Singapour, on a demandé un panorama général complet des activités de l'ICANN pour aider, je pense, ou pour enfin rendre plus utiles et plus pratiques les apports qui pourront être faits par rapport aux questions du HUIS au fur et à mesure que nous avançons. Mais je vais céder la parole à Peter parce qu'il me semble que nous avons un rapport qui sera présenté par le personnel de l'ICANN pour avoir un panorama général des choses. Est-ce que je peux te céder la parole pour que tu nous guides dans la transition?
Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas grand-chose à ajouter en ce moment parce que, comme Heather l'a mentionné, à Singapour, on a demandé d'avoir un panorama général des activités du HUIS. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au GAC, on a débattu qu'il y a eu beaucoup d'activités dans l'espace du HUIS à ce moment-là. Et le GAC visait à avoir un panorama général coordonné pour savoir quelles sont les parties les plus importantes. Je crois que l'une des plus importantes, c'est le groupe de travail d'experts sur les services de directoire des GTLD qui vont faire une inspection générale de tout le système. Ils vont donner des recommandations alors. Et dans le rapport final, on a recommandé justement cela, de faire une nouvelle conception du système du HUIS. Il y a bien d'autres travaux qui sont menés à bien, mais en outre, le personnel de l'ICANN a donné au GAC une idée générale de toutes les activités développées là-dessus et quelle était la situation actuelle. Je crois, et je regarde Merci parce que je crois que nous avons une session d'une demi-heure. Je te demande de présenter ton rapport et de laisser quelques minutes pour les questions-réponses. Margie Millen, directrice des initiatives stratégiques. D'après ce que vous avez pu voir, je vais consacrer les premières 15 minutes à vous dire ce qui se passe avec le HUIS actuel. Par la suite, il y a Jean-François qui va prendre la parole. Il est le membre du groupe d'experts, l'autre partie du HUIS. Et Peter, je ne sais pas comment tu veux gérer les questions-réponses. Hein. Après ma présentation, je fais une pause et après on pose les questions. Et puis après, on passe au groupe d'experts. OK, ce sera bien. Le GAC a demandé de recevoir une idée générale des activités du HUIS. Comme vous le savez, elles sont nombreuses. Il y a un document qui a été fait circuler au sein du GAC et j'espère bien que vous les aurez reçus. Là, vous avez davantage de détails. Mais pour avoir une idée de quelles sont les différentes initiatives, dans la réunion de Dakar en 2012, le conseil d'administration de l'ICANN a abordé la question du HUIS pour répondre, pour montrer ce que l'équipe de révision du HUIS avait fait. Il y a eu deux lignes d'activité différentes. La première qui avait trait à la mise en œuvre des améliorations au HUIS actuel, dont je vais vous parler aujourd'hui, et l'autre pour savoir s'il y avait une meilleure façon de faire cela, de mettre en place ces recommandations de l'équipe de révision du HUIS. Et le conseil d'administration a demandé un nouveau regard là-dessus et commencer à partir de zéro pour voir quels étaient les services dont on pourrait avoir besoin pour la nouvelle génération. On va en parler, OK? Alors, les activités de mise en place liées à l'équipe de révision du HUIS et les recommandations ont été vastes et j'espère que vous pourrez voir les documents qui sont publiés dans le site web de l'ICANN. Nous avons essayé de voir le HUIS du point de vue holistique pour pouvoir éduquer tout le monde sur ce que c'est que le HUIS et quelles sont les exigences du HUIS et essayer de les centraliser dans un seul site qui contiendrait toute l'information pour que ceux qui ne connaissent pas la question puissent le voir, analyser, voir les schémas, etc. Et c'est ce que l'on a fait dans le site du Rui. Je vais vous montrer plus tard une image de ce site web. Voilà, il y a un seul portail pour tous les GTLD. À la réunion de Singapour, à partir de cette réunion, il y a un site web où l'on peut mener une recherche pour n'importe quel GTLD, même les nouveaux GTLD. Nous avons aussi publié le quiz et nous l'avons envoyé aux unités constitutives pour pouvoir résumer toute la politique dans une seule langue. Alors, nous avons fait la chose suivante, simplifier la question pour pouvoir mieux la comprendre. Alors, nous avons engagé un rédacteur pour qu'il mette toutes les figures légales dans une langue commune afin que tout le monde puisse comprendre. Ceci a été traduit dans plusieurs langues. Alors, nous avons pris cette initiative pour la formation de tout le monde dans toutes les langues. Autre chose à signaler qui est importante pour le GAC, c'est un système de rapport en ligne pour le quiz. Voilà un grand projet et nous essayons de créer des systèmes d'information pour voir les niveaux de précision du quiz. Nous avons publié une RFP et qui a trait aux fournisseurs de différents services qui fournissent des systèmes d'information de précision ayant trait à leur tour aux services de vérification et de validation. Et nous cherchons des fournisseurs pouvant nous aider à la validation des courriers électroniques, la validation des adresses. En ce moment, nous avons notre RFP qui a la date finale en septembre pour satisfaire aux besoins de la communauté et voir si cela est au niveau attendu. Puis, il y a les données d'enregistrement internationalisé. C'est ce qui intéresse le GAC, à savoir quand on traduit le texte de contrat en différentes langues. Il y a plusieurs groupes de travail qui analysent ce point-là à partir de perspectives différentes. Il y a une étude, donc, qui analyse les pratiques actuelles et ce qui se passe dans d'autres industries pour pouvoir appliquer cette connaissance à notre base de données du QIS actuelle. Et nous voyons aussi comment pouvoir publier des informations en différentes langues, en différents systèmes culturels. Voilà le travail que nous faisons maintenant. Ce sera un long travail, mais c'est une partie importante de ce que nous faisons actuellement avec le quiz. La suivante, s'il vous plaît. Ici, il y a une image de l'écran du site web. Je vous encourage à la visiter parce que là, vous pouvez faire une recherche. Il y a de nombreuses informations sur le quiz. Vous pouvez voir quelles sont les politiques, faire des liens directs à l'équipe et à l'équipe de la conformité. Et je crois que c'est utile pour la communauté parce que là, on introduit toutes les connaissances pour que le public puisse voir dans un seul site toutes les nouveautés, analyses, développements sur la question. On est très content et nous espérons bien recevoir vos commentaires. Nous l'appelons bêta parce qu'en réalité, nous attendons toujours les commentaires de la communauté pour voir si l'information est suffisante. Il faut que le GAC nous dise aussi si l'information est suffisante, mais c'est une plateforme que nous utilisons pour éduquer sur le quiz. Nous allons aborder le système d'information sur la précision, sur l'exactitude du quiz. Je sais que le GAC a posé des questions, notamment sur le programme des nouveaux GTLD. Les enregistrements sont identifiés de manière proactive, s'ils sont exacts ou non. On a des échantillons, des idées, et on identifie, on vérifie si les bureaux d'enregistrement ont des informations qui n'est pas exactes. Alors là, on l'envoie directement pour qu'ils puissent considérer de faire un rapport public sur la question. Nous pouvons voir si l'identificateur n'est pas précis et voir ensuite s'il y a eu une modification dans l'enregistrement ou pas. Voilà donc le système avec ses éléments automatisés qui nous permet de faire le monitoring du progrès et bien évidemment garder une référence avec la précision, avec l'exactitude de la base de données. Si vous voyez la demande de proposition que nous avons publiée pour commentaire public, nous cherchons l'assistance du NRC qui a aidé l'ICAN pour voir si les registres sont exacts ou non. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire. C'est difficile d'analyser cela. Alors, on est en train d'analyser une terminologie pour analyser l'information du SSAC, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour voir comment on peut identifier un registre et si ceci peut être considéré exact ou pas du point de vue de la syntaxe, de l'identité, pour ne donner que des exemples. Si l'information n'est pas dans le format correct, alors là, cela se considère une erreur de syntaxe. Il faut voir comment l'identifier. Une erreur opérationnelle peut vouloir dire qu'il ne s'agit pas d'une adresse réelle. Alors, il faut voir si l'adresse existe ou pas dans une certaine base de données. Et ce qui est plus difficile à identifier, c'est si le bureau d'enregistrement vit effectivement dans ce domicile. On essaie donc de voir s'il est possible de le faire. Nous essayons de comprendre quels sont les coûts pour ce faire et ainsi déterminer la manière de progresser dans les rapports statistiques. Comme je l'ai dit auparavant, c'est un système intégré. Une fois que nous aurons intégré les questions, on va faire un lien avec le département de la conformité. Et ceci, c'est une partie de la complexité que nous abordons. C'est un système qui va identifier la précision des bureaux d'enregistrement, l'équipe de la conformité. Et puis après, on va informer constamment la communauté sur ce qui se passe. C'est un outil de conformité et nous essayons de chercher la validation commerciale pour voir si cela est disponible et si l'on peut mettre en place tout ce que l'on veut au sein du système. Une fois le temps passé, nous pourrons identifier la question et travailler avec les bureaux d'enregistrement et avec l'équipe de la conformité pour voir quel est le type de procédure à envisager pour faire le suivi des registres qui ne sont pas exacts. Dans cette image, il y a quelque chose d'intéressant. Nous analysons différents types de rapports pour pouvoir publier, par exemple, les niveaux d'exactitude associés au nouveau GTLD comparé au vieux TLD. C'est quelque chose d'important et d'intéressant et je crois que le GAC pourra l'utiliser pour voir comment le programme des nouveaux GTLD améliore les niveaux d'exactitude. Nous pouvons voir aussi ce qui se passe avec les bureaux d'enregistrement dans le vieux RAA et avec la nouvelle version du RAA qui a des exigences plus importantes. Et puis, il faut voir les différents niveaux de conformité pour les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre et pour les titulaires des noms de domaine dans les différentes zones géographiques. Cela peut avoir trait à l'éducation. Pour avoir encore plus d'exactitude, il faut investir des ressources pour les tiers, pour les bureaux d'enregistrement partout dans le monde. Voilà donc des rapports que nous considérons au fur et à mesure que nous organisons le système. Maintenant, je ne veux pas entrer en détail, mais on va analyser la méthodologie et cela va dépendre des coûts associés pour faire cela de manière manuelle ou automatique. Comment on va envisager la validation? Quel est le temps que cela va prendre de faire le rapport? On analyse si on va faire des rapports trimestriels ou deux fois par an. C'est le type d'information que nous recevons quand nous recevons les réponses de la demande de proposition que nous avons déjà publiée. Ici, vous avez la période à laquelle nous pensons travailler. Nous avons le RFP actif à partir du 16 mai. Et vers la fin du mois, on va commencer avec le RFP pour les fournisseurs. Et il va y avoir un rapport pour le débattre en octobre lors de la réunion de Los Angeles. Voilà, c'est un rapport pilote Mais je crois qu'il y aura l'information suffisante pour que la communauté puisse commencer à voir ce qui se passe, comment ça se passe, quels sont les besoins, de présenter des rapports sur les niveaux d'exactitude. Comme je l'ai déjà dit, dans le site du JUIS, il y a beaucoup d'informations. Là, vous trouverez tous les documents liés au JUIS. Et je crois qu'il est important que les membres du GAC visitent le site pour mieux connaître ces documents. Il y a aussi beaucoup de travail lié à la mise en œuvre de la politique de consensus de la GNSO. Nous avons donc le JUIS détaillé et adopté par le Conseil pour le programme des nouveaux GTLD. Et il y a aussi l'état de la politique d'information du JUIS. C'est quelque chose qui peut intéresser le GAC. Il y a une période de commentaires publics sur les procédures légales des conflits sur le JUIS. Souvenez-vous que cette procédure, les parties contractantes, les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre peuvent venir à l'ICANN et essayer de trouver des choses pour la rétention de données. Et cela est lié aux lois locales des pays qui participent. Et il faudrait modifier la procédure. Heather, je te demande de t'arrêter un tout petit moment parce qu'on a beaucoup d'informations et nous avons de nouveaux représentants au GAC. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous familiariser ou de familiariser plutôt nos collègues avec certains points, les points saillants ayant trait aux politiques publiques et démontrer les différentes voies de travail, ce que l'on fait en ce moment pour qu'ils puissent apprécier la complexité en termes de questions de politique impliquées et la complexité d'avoir tous ces processus pour gérer différents aspects. Alors, Je crois que cette introduction a été vraiment très, très bien pour voir les différentes voies que nous utilisons et pour les collègues du GAC. Quand on parle du JUIS, il s'agit d'un service de recherche qui permet d'obtenir des informations sur la personne ou l'entité ayant enregistré un nom de domaine. Il y a les informations de contact, etc. Et cela mener diverses questions et ceci a trait au nom générique de premier niveau. Les questions que nous avons abordées ont trait à l'exactitude des données et il y a différents points de vue sur la manière de garantir que les données du JUIS soient exactes et qui peut accéder, dans quelles circonstances, les organismes d'application de la loi. On parlait aussi des questions concernant la vie privée en utilisant différents systèmes de script dans la base de données. Voilà encore un autre problème. Alors, il y a beaucoup de questions à aborder du point de vue des utilisateurs, de la politique publique. Et parce que les processus de développement de politique sont ascendants, nous pouvons voir que la GNSO a une liste de domaines d'activité qui sont aussi importants pour nous, pour que nous puissions les connaître en tant que communauté et comme comité, pouvoir identifier quelles sont nos priorités pour participer des différents processus. Alors, comme nous avons peu de temps, j'aimerais nous arrêter ici. Peter, je ne sais pas si tu veux aborder un tout petit peu le groupe de travail d'experts, parce que c'est une initiative abarcative, une large initiative, et ce serait une bonne manière de nous concentrer sur le processus. Je crois que le GAC devrait commencer à faire plus attention à tout cela. Quand nous aurons fini avec les autres questions ayant trait au GTLD dans le programme des nouveaux GTLD. Et peut-être après, nous pourrons aborder ces questions. Je passe donc la parole à mon collègue.
Jean-François prend la parole. Il se peut que nous puissions ici projeter les diapos si nous avons une présentation pour le groupe des experts. Bon après-midi, je m'appelle Jean-François Barré, je suis le facilitateur du groupe de travail des experts et je vous remercie de l'invitation qui m'a été faite pour présenter ceci au sein du GAC. Nous avons ici des collègues, il y en a beaucoup au fond de la salle et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous un résumé général de notre rapport final sur les GTLD pour la prochaine génération qui a été publié le 6 juin. Comme un rappel, ceci est le fruit d'une initiative de Fadi et une demande du conseil d'administration de l'ICAN datant de février 2013 pour essayer de surmonter cet obstacle auquel nous devions faire face depuis très très longtemps dans le quiz. Margie l'a déjà expliqué, mais nous avions beaucoup de problèmes pour voir les choses dans le FOIS. Il fallait réviser la mission, réviser et voir de récolter, de maintenir les données d'enregistrement des GTLD et puis analyser comment sauvegarder ces données et puis comment on pouvait proposer une solution pour la nouvelle génération qui tienne compte de tout ce qu'il faut servir et dans la communauté mondiale de l'Internet. Et il faut ensuite établir une base pour toute la communauté de l'Internet pour voir la création de nouvelles politiques pour le service d'annuaire du GTLD. Il y a eu de fortes discussions, comme vous pouvez l'imaginer, dans le groupe d'experts, comme vous pouvez l'imaginer avec la participation de beaucoup de personnes. Et il y avait... dans votre cas, c'était vous fonctionniez un peu comme des défenseurs. Ça, c'est une grosse différence que nous avons établie dans le cadre de l'ICAN. Nous avons travaillé avec vous, nous avons eu votre collaboration, une bonne compréhension de vous tous et un engagement très très fort de toutes les personnes. Dans la prochaine diapo, nous allons probablement voir une nouvelle présentation des membres de l'équipe, du groupe d'experts. Nous avons ici des volontaires et des experts très qualifiés de tous les des quatre coins du monde. Nous avons un soutien extraordinaire de tout le personnel de l'ICAN pour nous assurer d'intégrer toutes ces discussions passionnantes dans notre rapport final. Il y a eu un équilibre vraiment intéressant, une grande harmonie entre ces personnes au point de vue de l'expérience dans l'aspect opérationnel sur le terrain et toutes les capacités qui permettent de rendre possible ce qui est impossible. Et dans ce cas-là, cela signifiait qu'il fallait avoir une attitude très ferme pour parvenir à un consensus, pour voir tout le panorama et comprendre et tenir compte du besoin de la communauté toute complète d'Internet et non pas seulement la nôtre, pour trouver la meilleure solution et éviter de rester dans le statu quo. C'est donc la seule magie dont nous nous sommes servis pour créer ces 18 recommandations contenues dans ce rapport. Vous avez ici un rapport qui a un grand nombre de pages, c'est le rapport final, et vous pouvez commencer à le lire. Et si nous essayons de le rendre beaucoup plus simple et plus bref, la complexité, l'extrême complexité de cette situation qui a duré si longtemps, cela nous permettra d'améliorer le quiz actuel beaucoup plus que nous ne le... espérions. Ce rapport, c'est en fait le résumé de 15 mois de travail, des milliers d'heures d'analyse et de recherche approfondie. Nous avons plus de 2600 pages de commentaires, de réponses et les résultats de différentes sortes de recherches et de sondages, 19 consultations publiques à la communauté, 35 journées de réunions en présence, 42 appels du groupe d'experts, ainsi que beaucoup d'autres au sein des sous-équipes. Nous vous racontions donc quels étaient Et ça, sans tenir compte des interactions avec les experts extérieurs et les membres de la communauté. Et tout cela, pourquoi faire ? Pour une réponse très simple qui se trouve entre guillemets. Il faut que nous pensions si la réponse est aussi simple que ça. Mais nous avons ici la possibilité de voir ce que Maggie présentait sur le quiz. Comment répondre aux besoins de la communauté mondiale de l'Internet ? Il faudrait peut-être penser une nouvelle dimension en pensant à une publication où nous pourrions inclure un commentaire où il n'y a pas d'accord de l'un de nos membres, mais nous estimons que nous avons suffisamment, que nous sommes suffisamment capables de pouvoir discuter ce désaccord en profondeur. Nous ne pouvions pas le publier en même temps que le rapport. Nous allons nous occuper de ces désaccords, nous allons nous assurer de tout mettre en ordre et ce désaccord sera publié aussi plus tard. Fabrizio Bérard, qui est avec nous, je vais lui céder la parole pour qu'il continue à présenter le contenu du rapport. Jean-François, merci. C'est Fabrizio qui prend la parole. La réponse la plus importante à cette question pour savoir s'il y avait une alternative de la part du groupe d'experts, la réponse est oui. Nous avons estimé qu'il fallait voir ce que nous avions aujourd'hui comme un accès anonyme à des données normalement imprécis ou inexact, et pour avoir un nouveau modèle. Quand on parle du nouveau modèle, on parle aussi du vieux modèle qui devait être abandonné parce que l'on avait là des choses qui étaient inutiles. Et c'est la plainte dont qu'on entend très souvent. Alors, dans ces 166 pages avec plus de 180 recommandations et principes, nous avons présenté différentes informations concernant les services d'annuaire et d'enregistrement. Nous avons essayé d'équilibrer l'exactitude, la précision avec l'accès et la responsabilité, de nous assurer que les données seront collectées de la façon appropriée et qu'elles seront diffusées seulement suivant un modèle orienté à un objectif en particulier, c'est-à-dire diffusées seulement pour des propos qui ont été annoncés. Et dans ce modèle, nous disposons qu'une certaine quantité des données minimales soit en dehors de ce qui est restreint. C'est-à-dire tout ce que nous estimons être des informations, des données personnelles identifiables qui ne seront pas le mail, l'adresse électronique, seront restreintes. Les seules choses qui ne seraient pas restreintes sont celles qui ne sont pas accréditées. L'accès accrédité aux données, ce serait l'adresse électronique d'un titulaire de nom de domaine, qui est le bureau d'enregistrement, quel est le registre, quelles sont les dates de création, et nous voulons bien sûr sauvegarder les données personnelles. Pour faire cela, nous avons introduit deux nouveaux parties contractantes qui seront la partie du RDS en particulier et les validateurs. Les validateurs s'occuperont justement de tout ce qui concerne la précision. Maintenant, nous espérons que vous serez tous d'accord dans cette prochaine diapo. Vous verrez que nous sommes rentrés dans le détail. Nous voulons nous assurer de tout vérifier. Nous voulons continuer notre dialogue avec la communauté pour nous assurer que vous compreniez pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises. Il y a quelques dates et quelques horaires pendant la réunion de Londres auxquels nous serons disponibles pour continuer à aborder ce thème, à discuter de ce thème. Certains thèmes dont nous parlerons concernera des questions que vous devez vous poser. Quelles sont les données publiques et les données restreintes? Qu'est-ce que l'accès orienté à un but? Et pourquoi il y a des utilisateurs accrédités? Qu'est-ce que ça veut dire, validité, exactitude? Comment tout cela va s'insérer dans le modèle recommandé? Et comment ferons-nous pour fournir une protection extraordinaire pour les données, pour la confidentialité et des choses de ce genre? Donc, veuillez assister à nos séances du 23 juin à 15h15 demain. Nous aurons donc l'occasion de faire une séance de questions-réponses lundi à 5h de l'après-midi et mercredi à 8h. Je cède encore la parole à Jean-François. Merci. Merci, c'est Jean-François qui prend la parole. Merci, Fabrizio. Le plus important, c'est d'être familiarisés avec ce rapport. Demain et mercredi, vous aurez l'occasion, pendant cette séance de questions-réponses, d'élargir vos connaissances. Mais le groupe d'experts centre son attention sur tous ces thèmes et profite de toutes les occasions pour rencontrer la communauté de manière directe ou sur des séminaires web. Ce rapport n'est pas parfait, certes, mais c'est le résultat de toute une série de compromis, de concessions et de solutions intermédiaires recherchées pour répondre aux besoins de tous. Nous sommes toujours très honnêtes sur le plan intellectuel et c'est cela qui nous a guidés pendant tout ce travail. Pour tous ceux qui faisons partie du groupe d'experts, nous espérons avoir une bonne base pour donner notre soutien à la communauté mondiale de l'ICANN et nous espérons que ce sera un bon modèle de remplacement pour le quiz que l'on pourra améliorer. Nous espérons aussi que ce rapport répondra aux directives du conseil d'administration de l'ICANN et que ce sera le début d'un dialogue constructif et le début d'un PDP de la GNSO très fructueux. Je vous quitte sur deux questions. Est-ce que l'on préférerait qu'il vaut mieux avoir ce quiz maintenant? Et si vous pensez que ce n'est pas le cas, comment fait-on pour répondre aux besoins de cet Internet mondial qui évolue constamment? Merci. C'est Hedel qui prend la parole. Merci de tout ce rapport. Je redonne la parole à Peter Nettlefold maintenant. Peter prend la parole. Comme nous l'avons dit à Singapour, c'est un thème que l'on aborde très souvent et nous remercions les experts du travail qu'ils ont fait sur ce thème et de l'information qu'ils nous donnent pour que nous soyons à jour de ce qui se passe. Le modèle d'accès aux données orienté à un but particulier est un changement très important concernant le WHOIS et nous pouvons tous l'observer. Nous pouvons le voir lorsque l'on cherche les données ou l'on obtient les données où ils sont validés et qu'ils ne sont fournis que pour des objectifs clairs. Cela ne sera accessible que pour ceux qui les demanderont avec une authentification appropriée. Cela améliore l'équilibre entre le besoin d'avoir des données et le besoin de la confidentialité. Il y a aussi d'autres questions de politique qui sont probablement importante pour les gouvernements pour voir ce que l'on fait des données qui quittent leur pays ou qui traversent leurs frontières. Nous avons donc trouvé comme cela des réponses que nous cherchions depuis longtemps. Pour le GAG, nous aurons probablement un certain temps mardi matin pour aborder ces thèmes s'il le faut. Il se peut qu'aujourd'hui vous soyez un peu trop limité dans le temps disponible pour les questions au panel, mais dans la séance du mardi, nous pourrons peut-être avoir une discussion du GAC et quels seront les pas à suivre. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les membres du panel. Un orateur non identifié prend la parole. Merci, Peter. Que signifie EWG Extended Working Group? C'est le groupe de travail des experts. Heather prend la parole. Merci, le Paraguay. Les Pays-Bas prennent la parole maintenant. Merci, Peter. Je serai très bref. Je crois que vous avez présenté un premier outil l'année dernière concernant les recommandations de la TRT pour améliorer l'exactitude. Je pense que c'est un outil vraiment très efficace pour les enregistres et les bureaux d'enregistrement et pour améliorer la nature et l'exactitude de toutes les données. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous cherchez les éléments manquants ou vous vous centrez sur certains modèles utilisés pour des usages abusifs, pour remplir des champs où vous savez qu'il y a des données qui sont incorrectes, données qui sont mises de façon incorrecte et de manière avec une certaine intention. Merci. Fabrice prend la parole. Bon, nous avons déterminé cela dans la mise en œuvre, oui, mais nous sommes en train de considérer les questions de syntaxe et des opérations. C'est quelque chose sur quoi nous nous sommes centrés aussi. Nous avons considéré ces deux aspects pour nous assurer qu'il soit techniquement faisable, nous avons différents fournisseurs qui ont essayé de faire ce que vous avez fait pour montrer comment sont exploités leurs systèmes et les niveaux d'exactitude sur lesquels ils travaillent. Nous nous sommes centrés sur les aspects opérationnels et syntaxiques et nous travaillons avec des fournisseurs multiples, y compris avec le système des adresses postales universelles, pour voir comment serait faite la validation syntaxique et opérationnelle. Peter prend la parole, c'est l'Australie, les États-Unis. Les États-Unis, merci Peter. Je veux remercier aussi le panel de nous avoir présenté toute cette information, ainsi qu'à Margie Milam, bien sûr. Et je veux faire une remarque, si vous me le permettez. Cela pourra peut-être vous décourager un tout petit peu, mais pour être sincère, j'ai confirmé que les plus terribles soupçons que nous avions, que cela représente quantité de travail énorme qui est fait en ce moment sur certains aspects fondamentaux concernant les données du quiz. Ce qui nous inquiète, c'est que, enfin, nous savons que nous luttons pour comprendre tout ceci, pour vous suivre, pour pouvoir faire des commentaires. Le GAC n'a pas eu l'occasion de discuter de cela en tant que GAC. J'attends la réunion de mardi et j'ai un grand espoir, mais je crains que nous risquerons de ne pas pouvoir exprimer nos soucis. Nous faisons confiance à tous nos collègues, mais nous n'avons pas eu le temps nécessaire peut-être pour analyser ceci, faire des commentaires pour toutes ces initiatives aussi importantes. Les données du quiz ont été une question qui a suscité nos soucis, non seulement dans mon gouvernement, mais aussi avec d'autres collègues, les collègues du GAC, et pour mon gouvernement, c'est très important. Nous avons beaucoup de questions importantes ici, et il y a autant d'initiatives, et elles sont toutes tellement importantes que je suis un peu confuse déjà. Et moi, j'y ai en parlé, et moi, enfin, je me suis égarée un tout petit peu dans tout cela. Je voudrais que vous considériez toute cette proposition et que nous puissions aussi en parler avec le conseil d'administration mardi après-midi. Le fait que les questions liées aux données du quiz sont des questions universelles, des thèmes universels, fait que cela a une importance clé pour les politiques publiques. Nous voudrions donc encourager le conseil d'administration et d'autres parties de la communauté de prendre suffisamment de temps pour analyser de manière appropriée tout cela et pour considérer les aspects de politique publique de façon appropriée, que tout cela soit clairement analysé et mesuré. Parce qu'il se peut que pendant la réunion de Los Angeles, nous devions consacrer beaucoup de temps à ce thème. Il faut que nous soyons vraiment préparés de manière consciencieuse pour aborder les questions de fond. Je dois admettre que je n'ai pas lu les 166 pages dans tous leurs détails. Et je suis absolument sincère et je me sens malheureuse de le dire. Parce que c'est un thème qui est extrêmement important. Je dis donc que nous faisons cette proposition non pas pour ralentir le travail, mais pour nous assurer que la communauté aura suffisamment de temps pour faire face à ce travail de manière responsable. Jean-François prend la parole. Nous tenons compte de votre remarque. Nous comprenons ce que vous dites. Le rapport est vraiment dense et nous savons que l'on ne peut pas digérer cette énorme quantité de recommandations que nous avons publiées. Nous avons fait la publication pour commencer ce processus qui vous permettra de vous familiariser avec elle. Nous essayons de voir si l'on peut avoir des réponses par rapport à ces questions. Et le conseil d'administration a reçu notre rapport et c'est lui qui va décider de l'opportunité de cette analyse qui devra être faite. L'Australie maintenant prend la parole. Merci de ce que vous venez de nous dire. Les États-Unis, est-ce qu'il y a un autre membre du GAC qui aurait des questions? L'Union européenne? Non, ce n'est pas une demande, mais je voudrais signaler l'importance de la protection des données dans ce domaine pour l'Union européenne. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'objectifs liés à la collecte de données. dans certaines juridictions, comme par exemple l'Union européenne, l'objectif n'est pas défini pour la collecte de données, mais pour le traitement des données. Il n'y a pas de processus fiable pour vérifier la précision des données de WHOIS. Et c'est un problème que nous avons là, au point de vue de la protection des données, pour nous. Nous ne voyons pas clairement quelle est l'application du terme législation applicable pour ce cas particulier. Et en plus, une autre réflexion sur le fait que nous avons besoin de ce que l'accès des tierces personnes aux données des WHOIS, en particulier lorsque cela peut être lié à l'application de la loi et à autres entités qui pourraient avoir des intérêts dans ce cas. Et certaines de nos restrictions de transfert de données au service d'annuaire du GTLD pourraient être considérées comme comme un problème avec une tierce partie. Il faudrait analyser cela. L'Australie donne la parole maintenant au représentant du Kenya. Le Kenya prend la parole. Merci du rapport que vous avez présenté. Je crois que la dernière fois, lorsque nous parlions de tout ce qui concernait le schéma du WHOIS et que l'on avait parlé de la question de la structuration du système et des propositions pour établir une base de données centralisée. Je n'ai pas lu tout le rapport, mais je suppose que ce sera plus clair ensuite sur les propositions qui ont été faites à ce propos.
Merci, le Kenya. Pardon ? Vous avez un micro, là ? Ça arrive. Question du Royaume-Uni. Brunella Longo. Il y a quelque chose dans le travail que vous avez fait qui parle du besoin du type de recherche juridique ou procédure légale ou juridique pénale qui est trait à la série historique des données du WHOIS, c'est-à-dire aller vers l'arrière, 10 ans ou même plus, avec l'abus des données personnelles. Et ce serait très important, surtout pour l'exécution de certains processus juridiques. Fabricio, oui, il y a une déclaration spécifique sur la question disant que ce type de requête doit être envisagé. Et nous, à partir de la Commission européenne, vous savez bien, tout doit être équilibré, la privacité, la confidentialité des données, la protection, etc. Alors, il y a eu plusieurs mentions qui ont été faites à ce type de principe. L'Australie, j'ai la Thaïlande maintenant, et par la suite, nous avons clôturé la session. Et le GAC va continuer à aborder cette discussion mardi matin. La Thaïlande, merci. J'ai l'opportunité de parler au groupe de travail d'experts, au panel, parce que je crois qu'il y a des traductions et des translittérations. Et voilà donc une des questions clés. Et nous, qui sommes chargés de la politique publique, nous sommes d'accord avec Suzanne. La question est vraiment complexe. Nous n'avons pas participé du groupe de travail en permanence. Alors, lorsque nous parlons des codes qui ne sont pas des codes ASCII, quand on parle des registres du WHOIS, il faut parler des coûts et les pays doivent être proactifs pour aborder cette question et pour travailler avec le groupe de travail d'experts. J'espère pouvoir en discuter mardi prochain. Heather, merci de vos questions. Merci aux orateurs qui ont fait leur présentation. Pour nous, au sein du GAC, ceci sera toujours une question très importante. Merci, Peter, d'avoir participé de cette session. Nous allons continuer avec le GAC. Et mardi à 9h30, nous allons aborder cette question encore une fois pendant 30 minutes pour nous préparer pour cette session et savoir comment on pourra continuer à travailler en donnant notre soutien contribuer à l'activité tout en tenant compte du volume et de l'importance du travail développé par l'ICANN. Merci beaucoup aux orateurs et aux membres du panel. Pour les membres du GAC, nous allons passer maintenant directement à la session suivante parce que nous sommes en retard. Nous avons maintenant une réunion avec l'organisation de soutien au non-générique. Nous allons donc demander à nos collègues de la GNSO d'entrer dans la salle. Je crois que Jonathan Robinson est déjà là. Je lui demande de venir s'asseoir ici au podium et la session sera modérée par Manal et par Jonathan du Conseil de la GNSO.